Alexandra Planinic.
Mallory Blanc va vivre sa deuxième expérience en Coupe du Monde de ski alpin ce matin. La jeune Valaisanne, âgée de 21 ans, sera au départ de la descente de Sankt Anton en Autriche. Elle a surpris tout le monde jeudi en prenant la troisième place de l'entraînement. De quoi la mettre en confiance pour ce week-end? Écoutez Mallory Blanc.
Bon, j'ai juste essayé de... Voilà, j'étais au départ, je me suis dit, voilà, on va essayer de skier sur le ski extérieur, de la manière la plus simple possible, faire juste mon ski. Et puis, arriver à l'arrivée avec... En bonne santé, je crois, déjà, parce que la piste était vraiment assez... Ouais, je dirais qu'elle avait bougé pas mal, et puis ça tapait pas mal sous le pied. Donc, j'ai vraiment essayé de faire comme je pouvais. Et puis, quand on arrive à l'arrivée, et puis que ça se passe bien, c'est chouette. Après, c'est un entraînement, bien sûr, il faut le prendre avec distance. Mais pour moi, pour le mental, ça fait du bien, c'est chouette.
Mallory Blanc avec Patrick Delletreau. Les hommes, eux, disputent ce matin un slalom à Adelboden. Deux courses à suivre dès 10h15 sur RTS2 et dans nos bulletins d'information. Une participation record des milieux économiques et politiques est attendue au WEF qui se déroulera du 20 au 24 janvier à Davos. C'est ce qu'indique son président Börge Brende. Des représentants de la future administration du président américain élu Donald Trump sont annoncés. Mais Börge Brende ne peut révéler qui fera le déplacement pour des raisons de sécurité et de confidentialité, explique-t-il dans le journal Blick de ce samedi. Cette année, le WEF est placé sous le slogan « Collaborer pour l'ère de l'intelligence ». Cette édition 2025 se penchera ainsi sur le rôle de la connaissance et de la technologie dans un contexte géopolitique difficile. La Suisse ouverte à l'idée d'accueillir un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est ce qu'annonce Nicolas Bidot, chef de la communication du département fédéral des affaires étrangères dans l'édition du Jour du Temps. Il précise qu'après le sommet du Bürgenstock l'an dernier, l'Ukraine, la Russie et les États-Unis ont été régulièrement informés de notre disponibilité à soutenir tout effort diplomatique permettant d'établir la paix, précise donc Nicolas Bidot. Jeudi, Donald Trump avait affirmé préparer une rencontre avec Vladimir Poutine pour en finir avec le conflit en Ukraine. En Allemagne, la campagne électorale en vue des législatives anticipées démarre aujourd'hui. Le parti conservateur, la CDU, en tête dans les sondages, présente les détails de son programme économique à Hambourg. Un agenda 2030 qui doit permettre au pays de renouer avec la croissance avec un programme d'inspiration libérale. Les précisions de Nathalie Versieux.
Le patron de la CDU, Friedrich Merz, veut capitaliser sur son image de spécialiste de l'économie. Alors que pour la troisième année consécutive, l'Allemagne devrait connaître une croissance négative, il mise sur de fortes baisses d'impôts, la flexibilisation du marché du travail et la baisse du coût de l'énergie pour l'industrie. Ce programme ultralibéral est un peu le va-tout de Merz, car si son parti est toujours en tête des sondages, le candidat conservateur a du mal à faire décoller sa campagne. La CDU est passée en une semaine de 31 à 30% des intentions de vote. Le vert Habeck est redevenu plus populaire que Merz. La nervosité est palpable dans le camp conservateur. Le facteur Trump fait monter la pression. Scholz, misant sur l'anti-américanisme d'une partie de sa base, pourrait profiter de possibles escapades du président américain pour gagner des voix. Nathalie Versieux, RTS, Berlin.
Une opération de secours en mer Baltique a été lancée hier soir par Berlin pour stabiliser un pétrolier en détresse, un pétrolier que l'Allemagne accuse de faire partie de la flotte fantôme russe de Moscou pour exporter son pétrole malgré les sanctions internationales. Berlin estime aussi que la Russie met en danger la sécurité européenne. Les critiques se multiplient au quatrième jour d'affilée des incendies qui font rage à Los Angeles. De nombreuses voix s'élèvent concernant notamment l'efficacité des secours, alors que les autorités se renvoient la balle en matière de responsabilité. Hier, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a demandé un examen indépendant complet des services de distribution d'eau de la ville. Il a qualifié de profondément perturbant le manque d'approvisionnement en eau et la perte de pression aux bouches d'incendie. De son côté, la responsable des pompiers de Los Angeles s'est alarmée d'un manque de personnel, de ressources et de fonds. Au moins 11 personnes ont trouvé la mort dans les feux et plus de 10 000 bâtiments ont été détruits à Los Angeles et plus de 14 000 hectares sont partis en fumée. Mayotte, placée en alerte orange à l'approche du cyclone Dikeledi, l'archipel français situé au nord de Madagascar s'attend dès ce soir à une dégradation significative des conditions météorologiques. L'entrée en vigueur de cette alerte orange survient moins d'un mois après le passage du cyclone Chido, le plus dévastateur qu'ait connu ce département d'outre-mer de 320 000 habitants. Chido a causé des dommages colossaux et a fait au moins 39 morts et plus de 5 600 blessés. C'est l'heure des grandes manœuvres dans la mode italienne. Prada voudrait racheter Versace, selon la presse italienne. Derrière ces velléités, une bataille intercontinentale dans le secteur du luxe. Frédéric Mamaïs.
C'est bien connu dans ce secteur, personne ne détrône les Français. LVMH, première puissance mondiale, et son dauphin, Kering, Bulgari, Gucci, Balenciaga ou Valentino, les deux géants se partagent des enseignes italiennes prestigieuses. Face aux Européens, un Américain avait pour ambition de faire contrepoids. Le groupe Tapestry a tenté de racheter son compatriote, Capri Holdings, lui-même propriétaire, entre autres, de Versace. Mais les autorités américaines ont barré la route à la création d'un grand concurrent à LVMH et Kering. L'opération ayant échoué, la maison Prada serait prête à sortir du bois et participer à un dépeçage de Capri Holdings en avalant sa compatriote Versace. Voilà qui renforcerait la prestigieuse maison milanaise déjà très en forme. Alors que le secteur ralentit, Prada, dont le style rigoureux porte l'empreinte de la directrice de la création, Miuccia Prada, a vu ses ventes grimper de 18% au troisième trimestre.
Et un mot sur la météo, passage à un temps ensoleillé aujourd'hui, température maximum 2 à 5 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
RTS vous souhaite une année 2025 extraordinaire. Restez avec RTS Espace 2 pour célébrer la vie en musique.
Du bon pied, Delphine Torrance.
Et ben voilà déjà cette troisième et dernière heure de Du bon pied qui va nous faire rencontrer un enjoué. Il arrive tout seul, il n'a pas eu peur, il est venu, c'est trop bien. On va parler algorithmes, trucs numériques qui font un petit peu peur, hacks, mais avec humour. Donc de toute façon, ça passera mieux. Restez bien dans l'écoute des programmes d'RTS Espace 2 et surtout de Du bon pied, les enjoués. C'est dans quelques minutes. Oui, il faut tousser avant qu'on allume le micro, c'est beaucoup mieux Damien, tout à fait entre nous. Et c'était donc Beethoven que nous venons d'entendre avec son concerto pour piano et orchestre, interprété par l'Orchestre Philharmonique de la Radio France, de Paris donc, avec Philippe Jordan à la direction au piano, c'était François-Frédéric Guy. Et on y va.
Du bon pied, les enjoués.
Et donc, bonjour Damien.
Bonjour Adèle Torrance.
Delphine
Torrance. Oh là là, de bonheur là.
Mais en fait, c'est marrant, ça va faire un rapprochement avec votre parcours politique. C'est assez intéressant, votre lapsus.
Aïe aïe aïe,
ouais,
déjà de bonheur.
Mais alors que moi je suis décalée et vous l'êtes, ça va être super. Donc on va avertir les auditeurs d'Espace 2, on est un petit peu décalés. Avec Damien Veiga, donc bonjour.
Bonjour, voilà, donc, Delphine.
Voilà, Delphine Damien. On vous accueille ce matin parce que vous êtes ce soir à Don Didier, à Lola Hop, avec un spectacle algorithme. Alors, il a un nom complet, c'est Hervé Books, Vala contre les algorithmes. Mais là, ce soir, à Don Didier, ça s'appelle juste les algorithmes. Vous avez écourté le truc, mais on va quand même parler d'Hervé Books, bien sûr. Et donc, Damien, vous avez 29 ans, une trentaine d'années, c'est
30
ça
ans.
Voilà,
ouais.
30 ans cette année?
Oui, je viens de les avoir.
Ah, joyeux anniversaire.
Merci.
30 ans cette année, une formation d'abord dans les sciences environnementales. Donc vous avez fait vous êtes diplômé en sciences environnementales et puis vous êtes en parallèle intéressé au théâtre. Vous êtes aujourd'hui un maître de cérémonie dans l'improvisation, un grand spécialiste de l'improvisation, mais vous faites aussi effectivement des spectacles. Et puis, il y a effectivement cette vie parallèle avec la politique et votre intégration aujourd'hui avec les Verts pour continuer de porter ce message environnemental qui vous tient à cœur.
Oui, j'avais pas prévu qu'on aille aussi vite sur le sujet, mais effectivement, juste l'écologie, vu que j'ai fait des études en sciences environnementales et que c'est toujours un combat que je porte à travers l'art et par d'autres moyens plus ou moins institutionnels, ça fait assez partie intégrante de mon travail, oui.
On va commencer avec le théâtre, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
Oui.
Comment est arrivé le théâtre dans votre vie au milieu des études de sciences environnementales?
Bah vraiment à travers l'improvisation théâtrale. J'ai commencé l'improvisation théâtrale il y a 15 ans. J'ai fait un petit parcours là-dedans. On a commencé à professionnaliser cette pratique, notamment à travers... et c'est là où le côté engagé revient. On a commencé à professionnaliser avec une compagnie qui s'appelle Impro Impact, dans laquelle on fait de l'improvisation à des buts de sensibilisation. Et on avait commencé avec l'écologie pour apporter un peu notre pierre à l'édifice.
L'écologie est là de multiples biais. On peut aborder l'écologie par plein de moyens. Effectivement, j'imagine que ça doit être sans fin à l'improvisation sur le thème.
Effectivement. Et là où on l'avait saisi, c'est qu'on avait beaucoup de mal à se projeter, surtout dans des futurs positifs et dans lesquels on puisse en fait avoir une marge de manœuvre. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait lancé Impro Impact. C'était pour se dire, ok, c'est quoi la Suisse dans sa version où on a pris des mesures en 2050.
La différence entre l'impro, donc on comprend, vous êtes un grand spécialiste de l'improvisation, et puis écrire un spectacle que vous allez nous présenter ce matin, c'est quoi la contrainte? Vous improvisez puis vous notez en même temps, ou vous écrivez puis après vous tentez de voir ce que ça donne à l'impro?
Je trouve que c'est un exercice extrêmement différent. Je trouve qu'en improvisation, on essaie de faire semblant que c'est pas écrit, et pour ce qui est du côté du one man show, c'est plus faire semblant que c'est spontané en permanence, alors qu'on a passé des centaines d'heures à essayer de raffiner le rythme, chaque petite phrase, changer un mot, etc. Donc vraiment le travail est, je trouve, complètement différent.
Et puis en plus, vous vous adaptez aux endroits où vous allez jouer. J'ai cru comprendre que avant de monter sur scène, vous étiez il y a pas longtemps à Yverdon, par exemple, au Numeric Games, vous avez vraiment étudié la ville, le contexte dans lequel vous étiez. Est-ce que pour Don Didier, vous avez fait pareil?
Un peu, oui. C'est un peu le pitch. J'essaye en fait de faire comme un algorithme, c'est-à-dire il aurait étudié les données de ses usagers et usagères, comme je les appelle pour mon spectacle, et ensuite je leur donne un peu ce qu'ils veulent voir. C'est le pitch. Ce que je fais concrètement, c'est j'épluche le bulletin communal, je regarde un peu l'actualité de la région sur la RTS et j'essaie de faire des blagues personnalisées. Mais le pitch, c'est on vous sort le spectacle que vous avez envie de voir parce qu'il est personnalisé pour vous.
On va parler vraiment en détail de Algorithme, le spectacle que vous présentez ce soir, mais c'est cet alter ego, du coup, Hervé Books Vala, que vous avez créé et qui vous représente, que vous représentez sur scène. Il existe, parce que quand on l'entend, on se dit qu'on l'a tous dans notre bureau, quelque part.
Peut-être qu'il existe, oui. Je crois que je suis un grand fan de l'humour à la série un peu The Office, où il y a toujours des personnages de bureau un peu gênants, un peu losers. Et c'est ce qu'il est, c'est un geek, mais très sûr de lui. Je pense que c'est ce décalage-là qui me fait beaucoup rire. C'est les gens, les losers, mais qui se croient les rois du monde.
Oui, et c'est ceux qui sont le plus présents en règle générale sur les réseaux en plus.
Ah bon? Oui, bah il y a beaucoup de donneurs de leçons, c'est sûr.
On aurait de quoi faire un débat pendant des heures. La journée mondiale du merci aujourd'hui, d'ailleurs, si vous avez envie d'utiliser le thème ce soir dans votre spectacle à Anand Didier. C'est pas un truc qu'on dit souvent sur les réseaux, merci, il me semble.
Merci. Bah, je le dis en tout cas à la radio, merci.
C'est déjà pas mal. Damien Vega, vous présentez donc ce soir Algorithme. Est-ce que ça a un sens direct avec ce message environnemental que vous portez? Est-ce que le numérique, c'est l'ennemi juré de la cause environnementale?
L'ennemi juré, non. Mais en tout cas, il y a clairement des liens, c'est vrai. Alors, il y a déjà tout bonnement les impacts environnementaux de ces serveurs. On sait, hein, avec l'IA qui arrive, que c'est encore pire que ce qu'on avait déjà avec les moteurs de recherche en termes d'impact carbone sur l'eau, sur les sols, etc. Mais indirectement, je pense qu'il y a quelque chose autour de l'économie de l'attention qui se joue. C'est en fait, notre attention est en quelque sorte, me paraît en tout cas, quelque sorte détournée des problèmes écologiques. Et je pense que c'est moins direct, mais il y a une réflexion à creuser autour de ça.
Et ces multimédias sont souvent portés par des gens, des espèces de mégalos qui n'ont pas forcément la même conscience environnementale.
Effectivement, en tout cas, ce n'est pas Elon Musk qui sauvera la planète, je pense. Donc oui, effectivement, je pense
que... Et pourtant, il se pense hyper intégré avec sa Tesla. Mais bon, ça, là aussi, on est bon pour un débat.
On peut aller très très loin.
Ouais, hein. C'est ça. Moi, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, comme il est proposé aux invités de ces enjoués. C'est de présenter, en tout cas, un son, une musique qui a un lien avec vous ou avec le spectacle que vous présentez. Puis vous nous proposez un titre d'Atlas qui s'appelle Utopia. Vous voulez nous en donner quelques, nous en expliquer le sens et pourquoi on va écouter ça.
Très volontiers. Alors, déjà, c'est une référence très directe à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour le spectacle, Alexis Manzon, qui est compositeur d'une partie des ambiances sonores du spectacle. Il y a également Léo Moreno qui pose sa voix là-dessus et qui est un ami d'enfance très proche de moi et qui m'aide beaucoup aussi dans mes projets. Il y a ça. Et puis de l'autre côté, c'est une espèce de parodie d'un son de Alain Damasio, de la voix de Alain Damasio, l'auteur de science-fiction, sur une musique de Rhône. Et vu que Alain Damasio, c'est un peu la tête de proue de la science-fiction et qui parle de ça de façon très engagée, je trouve que c'était un chouette clin d'œil, d'autant qu'il apparaît aussi un peu dans le spectacle.
On l'écoute pour se donner une idée ?
Très volontiers.
Tout ce qui est là, mec, bah ça pourrait être autre chose que là. Et on peut tout déconstruire et on aurait tout pu construire autrement, mec. T'as l'impression qu'il y a un ordre social et toute cette merde, mon gars, mais pas du tout, mec. C'est juste que l'homme blanc, il est arrivé, c'est le premier qui a eu envie d'aller niquer tout le monde, mec. Et du coup, pour l'instant, il gagne ce jeu de merde auquel il joue. On pourrait jouer à d'autres jeux, tu vois. Y a pas que ce jeu, mec, y a pas que cette vieille course à accumuler, tu vois. Et clairement, là, on est dans un truc où on essaie de maintenir ça avec violence, mais parce qu'on a peur, de si ça change. Tous les gens qu'on considère comme des héros, les chefs de guerre, les conquistadors, mec, les colons, mais c'est que des tarés, mec, c'est des psychopathes, les mecs. On a oublié que les gens qui ont forgé ce système, ils l'ont forgé dans le sang, mec. fait de la violence la première manière d'être en relation au monde et d'être en relation aux autres. En fait, ce qu'il faudrait faire, mec, c'est regarder à l'intérieur de toi et comprendre tes émotions, comprendre pourquoi tu te sens comme ça, mec. Déjà, conscientiser que tu te sens comme ça, comprendre pourquoi tu te sens comme ça et déconstruire ça, mec, déconstruire ça. Je pense que le changement, il vient de là, il vient du moment où on arrête de fuir et on s'assoit, mec, et on s'écoute.
Non, non, on veut parler, nous. C'est un petit peu... Hein,
oh, c'est intense, c'est ouais, intense. C'est, voilà. Le choix est un peu audacieux, hein, de bon matin comme ça.
Mais c'est parfait. Et ça va, de toute façon, et avec vous et avec ce que vous allez présenter donc ce soir à Don Didier, Algorithme, ou alors Hervé Books va là contre les algorithmes. Je le dis, c'est le titre complet. Comment est née cette idée d'aller titiller le numérique?
Je crois que ça partait vraiment beaucoup de cette idée d'attention. Alors moi, j'aime beaucoup le côté conférence de vulgarisation. Donc je me suis dit, je vais porter une thématique sur scène parce que je trouve que j'aime beaucoup la recherche, le fait de transmettre aussi le fruit de mes recherches. Donc avec la place prépondérante que ça prend, on voit juste plus que jamais aujourd'hui, les géants de la tech, c'est vraiment un épicentre du pouvoir et je pense qu'on est très peu armés pour comprendre ces enjeux-là. C'est vrai, c'est vraiment des black box, des boîtes noires. Mmh. Du coup, je me suis dit, je vais m'y intéresser pour essayer d'ouvrir un peu cette boîte noire. Et l'objectif principal, c'était vraiment de faire rire. Je me suis dit que la vulgarisation viendrait après, parce que je pense que déjà faire passer un bon moment à des gens dans une salle, ça a déjà de la valeur en soi.
D'abord faire rire, après trouver le sujet.
C'est ça.
C'est dans ce sens-là. Vous êtes entouré, j'imagine, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes tout seul sur scène, mais j'imagine que vous n'êtes pas tout seul parce que ça représente quand même une préparation. Qui vous aide, qui vous accompagne, que ce soit dans l'écriture ou dans l'imagerie, dans le décor?
Alors le spectacle a vraiment démarré avec une bourse de la Société Suisse des Auteurs. Du coup, j'ai eu l'honneur de me faire accompagner de quelqu'un et d'un ami à moi qui est Thibaut Agoston, qui est humoriste également.
Oui.
Et ça c'était pour l'écriture. Pour l'accompagnement musical, il y avait justement Alexis Manzon qui a composé le son, la musique qu'on a écoutée tout à l'heure. Et sur les aspects aussi production administratif, il est aussi présent. Charlie Rabin à la technique et à la composition lumière.
Et il est né quand, ce spectacle Algorithme?
L'idée est née en 2022. Justement, en déposant cette demande pour une bourse SSA de la Société Suisse des Auteurs. Et puis après, le projet a pris un an et demi à être écrit, à mûrir. Et il a vu le jour pour la première fois au Théâtre du Tétois à Neuchâtel.
Et donc, depuis, vous tournez de manière assez ponctuelle, finalement, dans certains contextes.
De façon assez ponctuelle, oui. J'ai depuis aussi créé un deuxième spectacle. Donc maintenant, il y a deux spectacles à diffuser. Et c'est un travail en soi, donc on va bien gentiment se poser. Et puis,
C'est quoi ce deuxième spectacle, expliquez-nous.
Ah oui, encore un spectacle, ouais. Encore des choses.
Bah si.
Oui, c'est aussi une conférence humoristique avec un autre personnage central. Et là, la thématique qui est explorée, c'est le capital et les inégalités. Une autre thématique un peu complexe, quoi.
Bon, c'est engagé, en tout cas.
Engagé ouais. et pas facile à comprendre aussi. Hein.
C'est aussi présenté par Hervé Books, voilà, ou il y a un autre alter ego.
J'ai d'autres personnages affreux que je peux sortir de ma besace. Et en l'occurrence, là, c'est Harley Schwartz, qui est une espèce de... En fait, le pitch, c'est un séminaire pour apprendre à devenir millionnaire. Mais le séminaire ne se passe pas tout à fait comme prévu.
Vous devriez donner des leçons à certains. Encore une fois, c'est vrai que sur les réseaux, il y en a beaucoup qui donnent cette possibilité de peut-être devenir millionnaire. C'est dangereux, finalement, ces faux messages de réseau.
Dangereux à certains titres, ouais. Alors là je pourrais parler longtemps encore. en l'occurrence, moi, je suis pas devenu millionnaire, donc c'est peut-être un mensonge. Je donne peut-être pas des conseils.
Si on vient voir votre conférence, on va pas ressortir avec plein de bonnes idées.
Non, mais je trouve intéressant parce que le premier spectacle est sur les aspects technologiques, le deuxième sur les aspects plutôt capital et je ne vous cache pas que je pense peut-être à faire un troisième spectacle sur des aspects plus politiques encore, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on voit bien l'alliance de la technologie et des grands milliardaires qui souvent ne font qu'un, et leur puissance politique.
Une trilogie.
Une trilogie, ouais.
Ouais, ça serait dingue, ça, une trilogie. Et puis les jouer les trois d'un coup, chla, comme ça.
Je pense que je serais épuisé à la fin de la soirée, mais ce serait un concept incroyable.
Hervé Books va la présente ou contre les algorithmes, c'est ce soir à Don Didier, à Lola Hop, à 20h. Et puis l'autre spectacle, du coup, on peut aussi peut-être aller sur... Vous avez un site internet, on peut aller voir quand c'est que vous allez jouer.
Alors, j'ai pas encore de date, mais sur les réseaux sociaux, Damien Vega, ou sur un site, sur mon site, j'y mettrai dès que la diffusion sera lancée.
Bon, Damien, c'est quoi un algorithme alors ? Parce que finalement, c'est la base du spectacle.
C'est quoi un algorithme ? C'est comme une recette de cuisine, c'est une suite d'instructions qui permet de résoudre un certain problème. Et voilà. Et dans la conférence, j'essaie de créer un algorithme un peu pour le faux sur le tas, pour montrer un peu ce que c'est. Et j'essaie de faire un algorithme pour faire la meilleure blague du monde.
C'est ça le truc. Donc, puis la meilleure blague du monde. Alors, vous êtes humoriste, vous aimez l'humour. Qui est pour vous aujourd'hui l'humoriste qui fait les meilleures blagues du monde ?
Oh waouh, j'ai tellement peur de cette question. Moi, en tout cas, je suis dans un type d'humour où j'aime bien le pince sans rire et l'absurde. En Suisse, j'aime beaucoup, par exemple, ce que fait Blaise Bersinger,
oui.
Notamment sur votre antenne.
Quand comparse de couleur 3, ouais.
Alors là, de dire que c'est le meilleur blagueur du monde, j'aurais un peu peur de m'avancer.
Vous aimez l'absurde, vous aimez ce côté décalé qui laisse en fait dans l'improvisation une grande place à ça. C'est facile l'absurde dans l'improvisation.
Absolument. C'est ce qu'on appelle aussi l'humour situationnel, c'est de créer un décalage de contexte avec ce qui s'y passe. Et c'est très courant en improvisation. Et je vois que les humoristes qui sont, enfin les improvisateurs, improvisatrices qui sont tombés dans l'humour ensuite. Ont beaucoup tendance à exploiter ce décalage-là et ça me plaît beaucoup.
J'ai envie de profiter de vous avoir là sous la main pour avoir un cours d'improvisation. C'est...
Oh wow.
Ouais, non mais on va loin. Hein. Mais parce que nous, animateurs radio, forcément, on est constamment dans l'improvisation, surtout quand on est comme ça en direct. C'est quoi l'élément sur lequel on s'appuie quand on crée une improvisation ? C'est-à-dire que souvent, on donne un thème, on monte sur scène, on donne un thème, on doit y aller. Sur quoi on se raccroche pour trouver l'idée, le filon ?
Sur quoi on se raccroche ? Souvent sur quelque chose d'assez simple. Les débutants et débutantes auront tendance peut-être à en faire un peu trop, alors que il y a beaucoup de choses déjà présentes. Il y a souvent des exercices qui montrent que, en fait, on dégage déjà tellement de choses rien qu'en étant, qu'il faut se raccrocher sur ces petits premiers fils et être dans une démarche d'acceptation. Souvent, les préceptes de base, c'est qu'il faut accepter et ne pas prévoir trop en avance. Donc vraiment être dans le moment présent le plus possible.
Et ce qui donne, après un spectacle donc comme celui que vous allez présenter ce soir, où il y a énormément d'interactions, vous aimez ça, jouer avec le public, aller le chercher, le laisser vous titiller pour trouver d'autres idées ?
Bah, paradoxalement, c'est ma zone de confort. Parce que vu que j'ai fait 15 ans d'impro, dès que je fais de l'impro, je me sens mieux et tout mon corps se détend. Donc effectivement, dans le spectacle, il y a un peu des moments pause café, un peu gênant, avec un collègue qu'on aimerait mieux éviter, et c'est mon moment préféré.
Pause café avec le collègue, mais avec le public ?
Avec le public, ouais, qui sont pour le coup mes collègues un peu malgré eux.
Donc si vous voulez être le collègue d'Hervé Books, c'est ce soir à Don Didier, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Ouais, c'est très gênant, c'est très gênant.
La gênance. Vous donniez comme sujet, justement, comme exemple, The Office, cette fameuse série qui est je pense, mais ça doit être assez similaire pour beaucoup d'autres, la gênance absolue. On n'a jamais fait aussi gênant que ça.
Oui, et ça me fait beaucoup rire, vraiment. C'est tous les contre-rythmes, les temps un peu trop longs, les zooms qu'on ne veut pas voir, enfin, j'adore.
Damien Vega, c'est ce soir, donc, Hervé Books va la contre les algorithmes à Lola Hop, à Don Didier, à 20h. On peut vous y voir, et puis peut-être à d'autres moments, on va revenir sur certaines dates, et puis certains spectacles, et puis on a compris avec un autre spectacle. Et alors, à quand la troisième sur la politique ? Vous êtes déjà...
Je fais une annonce dans mon deuxième spectacle, où je dis que ce sera en 2026, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais peut-être 2026.
Vous êtes déjà en train d'écrire ?
Non.
Ah, bah voilà. Mais L'ambition, ça a du bon. On va se faire une deuxième pause musicale. C'est moi qui vous l'ai proposé cette fois, par rapport à votre engagement environnemental. Hein, je le rappelle, vous avez fait des études en sciences environnementales, vous êtes engagé chez Les Verts et vous avez vraiment cette volonté de porter ce message. Je vous ai proposé un titre de Pomme qui s'appelle Les Séquoias et on va l'écouter tout de suite. En douceur, ce titre de Pomme, Les Séquoias, et son titre effectivement engagé dans l'environnement. Damian Vega, moi je vous propose qu'on partage ensemble l'agenda du week-end. C'est de coutume comme ça avec les invités des enjoués. Alors il y a pas mal de musique, bien sûr. RTS Espace 2, nous partageons beaucoup de concerts, mais vous verrez, il y a aussi un ou deux spectacles. N'hésitez pas à interagir. Hein, si tout d'un coup il y a un truc où vous dites « Ah, je connais » ou « Ah, mais j'ai déjà joué » ou « Hein, d'accord ?»
Ça marche.
Trop bien. On va commencer à Genève, chez vous d'ailleurs. Voilà, vous êtes genevois à l'origine.
J'essaie de ne pas le dire à l'antenne parce que je sais que je perds tout de suite beaucoup de sympathie.
Mais non, mais vous n'avez pas l'accent, donc toi-même. Est-ce que c'est un truc qu'on gomme l'accent quand on fait du théâtre, de l'impro, ou alors on l'accentue?
Alors moi, je sais pas. J'imagine que oui, je pense que dans les médias, cette réflexion me paraît intéressante aussi. J'ai l'impression qu'on le perd quand on doit présenter les, Enfin, là, du coup, c'est vous qui.
Oui,
qui ouais, savez.
Alors là, en l'occurrence, c'est de moi qu'on parle. Mais non, mais effectivement, vous n'avez pas. Puis une voix n'est pas grave, hein, vous savez. Hein.
Je sais, mais je sais que si je fais des blagues sur les jeunes voix en territoire fribourgeois ce soir, bah, je pense que j'aurai des rires.
Oui, bah, bien. Et inversement, je pense que si vous tapez sur les fribourgeois à Genève, ça ne fait pas. Mais c'est un peu la coutume helvétique, j'ai l'impression.
Oui, oui, ouais, aussi.
C'est ça, ça fait partie de nos gènes de se moquer de nous, entre nous. Donc on va commencer à Genève, c'était ça l'idée.
Oui.
Au Centre des musiques actuelles, dans l'auditorium en Sermet, c'est Hurricane, le pianiste, compositeur, grand maître de l'improvisation au piano, hein, qui offre une masterclass ce soir à 17h. Et ça, franchement, c'est à ne pas manquer, c'est gratuit, c'est à 17h, donc à cette au fameux auditorium en Sermet. Et puis ce sera suivi par un concert à 20h30, où il se présentera en quintette avec des musiciens de l'EMU et de l'EMA. Alors la masterclass, elle est gratuite, elle est ouverte au public. Mais le concert à 20h30, bien sûr, a une entrée payante. Ce soir à 19h, au temple de Saint-Gervais, on reste toujours un peu du côté de chez vous, il y a des chants byzantins et traditions syriennes qui vous attendent, avec deux artistes, Lynn Adib et Camilla Joubran, qui récitent des poèmes, qui chantent et qui s'accompagnent à l'orgue. À la maison du quartier du désert à Lausanne ce soir à 19h, la compagnie Arcadia varie les plaisirs entre airs d'opéra italien, des oratorios, d'autres airs d'opérette française, allemande, que des trésors, du lyrique, avec une pianiste à l'accompagnement. Les concerts d'avenir proposent un récital d'orgue de Benjamin Righetti. C'est demain à 17h au Temple d'Auvernier. Il y propose des pièces de Bach, de Böhm, d'Händel, puis des œuvres de sa propre composition. Demain toujours à 16h, à l'abbaye de Montheron, un ultime concert du temps de l'Épiphanie et de Noël avec Anaëlle Désert, soprano, Jonathan Spicher, le ténor, et Daniel Thomas à l'orgue, au petit carillon, au clavecin et au piano. L'association Perspective Musique propose 5 concerts d'immersion dans la musique classique à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds. Et le premier, ce sera demain à 17h sur les 5. Donc le premier, ce sera demain à 17h avec Francesco Piemontesi, le pianiste de renommée, qui jouera des pièces uniquement de Schubert. À la Blanche Église de la Neuve-Ville, demain à 17h, le duo Devina, ce sont deux chanteuses lyriques, soprano et mezzo, qui sont accompagnées au piano pour commencer l'année avec des pièces de Mendelssohn, Brahms, Debussy. Ce sera suivi d'un vin chaud et d'un gâteau du Vuilly organisé donc par le CAN. De la musique du monde à l'église de Dayan, demain à 17h, avec le trio Para de la Tierra de Uno, avec flûte, guitare et bandoneon. C'est de la tradition argentine. La musique dans l'improvisation, ça me fait penser, est-ce que vous avez des musiciens qui viennent improviser ?
On en a, effectivement, on en a. Et ça ajoute vraiment une patte, ça a quelque chose de vraiment assez épique. Donc on apprécie à chaque fois qu'on a des musiciens.
Ça veut dire que ça devient un comédien à part entière, l'instrument ?
Absolument, ouais. Et d'ailleurs, c'est vraiment un plus d'avoir un musicien ou une musicienne qui elle-même a déjà fait de l'impro. Donc, histoire d'avoir une lecture aussi de ce qui se joue sur scène. Et puis, la musique vient aussi donner une impulsion. On dit souvent aux musiciens, musiciennes, bah, en fait, allez-y, si vous voulez nous surprendre, vous faites partie de l'impro, donc on jouera ce que vous nous proposerez.
Ça serait intéressant de faire venir Hurricane une fois un spectacle d'impro impact avec son piano. Le mélange doit être assez atomique. Un dernier concert encore à signaler demain à 18h au Singe à Bienne. C'est assez particulier, c'est Joseph Van Wissem qui est un luthiste extraordinaire, mais vraiment virtuose, qui a cette capacité de passer de la musique renaissance baroque, mais avec aussi des sonorités hyper contemporaines. Si vous êtes amateur de luth et de luth baroque, vraiment, allez voir Joseph Van Wissem. C'est demain à 18h au Singe à Bienne. Et puis bien sûr, ce soir, ne pas manquer ce soir Damien Vega avec son alter ego, c'est à Don Didier, donc à Lola Hop, à 20h. Et avec votre autre spectacle, pas encore de date fixée.
L'autre spectacle qui s'appelle Capital, pas encore de date fixée, la diffusion suivra.
Mais vous êtes engageable. Je veux dire, si maintenant, tout d'un coup, il y a des auditeuristes qui ont envie de vous faire venir dans leur salle de spectacle, on peut vous contacter.
Ah, bien sûr. L'idée, c'est de diffuser les salles, mais de se diffuser le plus possible, mais ça prend un temps en soi d'aller auprès des théâtres et des différentes institutions.
C'est compliqué, souvent les enjoués le disent quand ils viennent ici, c'est chouette de faire du théâtre, c'est chouette de faire de la musique, mais toute la partie administrative, elle est ultra costaud.
Elle prend de la place, oui. C'est pour ça qu'on aime bien s'entourer aussi à ce niveau-là. Parce que c'est un travail en soi que de diffuser un spectacle, de le produire, de demander des subventions, etc. Donc, des fois, on se perd dans des semaines où on fait des dossiers et on est là. Mais attendez, j'avais pas signé pour ça, en fait, à la base.
Impro Impact, c'est votre bande, donc, d'improvisateurs. Ça fait une quinzaine d'années que vous faites de l'improvisation. Eux aussi, on peut aussi vous engager. Vous faites des impros sur tout terrain.
C'est ça. On a deux thématiques phares. En fait, on sensibilise sur les questions d'écologie et les questions de genre. Et le concept de base, c'est qu'on présente un tableau plutôt négatif. Par exemple, en termes d'écologie, la Suisse en 2050, les choses vont mal. Et puis, il y a des moments de concertation ensuite où le public réfléchit en groupe à des solutions, etc. Et là, on joue la variante qui apporte de l'espoir parce qu'on a implémenté les solutions du public pour avoir un beau tableau de la Suisse en 2050.
Et pour faire de l'improvisation, on peut se rendre, enfin, si on a envie d'essayer l'improvisation, il y a de nombreuses écoles, il y a des endroits où vous ne faites pas de cours, par exemple.
Alors, je remplace de temps en temps, mais non, je ne donne pas cours, mais il y a quelques structures, notamment du côté de Genève, il y a Alliance Créative, sur l'ensemble de la Romandie, il y a Impro Suisse, il y a plusieurs compagnies, je crois que la compagnie du Cachot doit également donner des cours du côté d'Yverdon, il y a des opportunités, il y a impro.ch aussi, voilà, comme ça j'aurais dit.
Bah oui, bah il faut, bah absolument, parce que l'impro c'est un moyen aussi de sortir de, comme vous dites, sortir de sa zone de confort, de s'apprendre, de se découvrir, de se mettre en danger, de d'oser des choses qu'on n'oserait pas en dehors.
Exactement, et je pense que même pour aller encore plus loin, je pense que ça peut vraiment développer des qualités qui font de nous des meilleures personnes, des qualités d'écoute, de co-construction, de créativité. Donc il y a vraiment plein de soft skills qui sont vraiment très bons à prendre.
On l'aura compris, dans votre parcours théâtral, vous vous intéressez au capital, à l'algorithme, à cette chose un peu impalpable finalement de notre société, mais vous avez aussi en parallèle cet engagement pour l'environnement. C'est pas un peu schizophrénique, un peu contre-productif?
C'est-à-dire?
Ben, je sais pas. Il y a ce côté de promouvoir. Enfin, c'est même pas de la promotion parce que finalement vous en riez hein, des algorithmes et puis effectivement des méta et du capitalisme et tout ça. Mais pourquoi pas faire un spectacle qui porte justement votre message engagé de l'environnement?
Ah, plus sur l'écologie. Ouais. Je crois que j'avais déjà fait un peu mes spectacles du coup plus du côté de l'impro sur l'écologie, donc je voulais explorer d'autres thèmes. Mais tout le défi avec ces thématiques-là, justement, c'est de faire dialoguer ces thématiques avec les gens. Et je pense que l'humour, l'impro, le stand-up, tout ça, ça permet en fait d'abaisser un petit peu les enjeux et de pas en faire juste des choses trop abstraites et trop lourdes aussi.
Et anxiogènes.
Et anxiogènes, ouais, surtout.
Anxiogènes. Merci beaucoup Damien Vega d'être venu ce matin, alors que vous êtes sur scène ce soir à Don Didier, mais merci d'être venu partager un moment avec nous. C'est les algorithmes, ce soir, on va rire, c'est vraiment fait pour. Et puis en plus, vous allez nous faire participer si on fait partie du public. Merci beaucoup, bon week-end.
Merci beaucoup pour l'invitation, Delphine Torrance.
Et vous venez de plonger dans la fontaine de Rome de Respighi avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit, un enregistrement assez ancien de 1982 qui apparaît sur un album d'Eka. On arrive presque au bout hein, de ce du bon pied, encore un tout petit peu de musique et puis vous retrouverez bientôt l'équipe de l'Écho des Pavanes. Mais c'est Ravel à propos de Pavanes d'abord. Et c'était Bertrand Chamaillou qui interprétait ici donc cette pavane pour une infante défunte de Ravel. Ravel dont on va fêter le 150e anniversaire cette année, né un 7 mars 1875. Donc 150 ans, ce sera bien sûr sur RTS Espace 2 à toutes les sauces. La suite c'est l'écho des pavane, tellement inspiré avec le boléro de Ravel, entre autres le rêve de Polyphène ou la nouvelle aventure de Vassim Halal et de Gamelan Pouspawarma. Et ce sera bien sûr avec Benoît Perrier et toute sa bande. Je vous souhaite à tous un excellent week-end puisqu'il est l'heure pour moi de m'éclipser, vraiment l'heure. Mais quel plaisir de passer ce moment avec vous. Il est 10h maintenant sur RTS Espace 2. Prenez soin de vous.